Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La violence contre les femmes, le sexisme seront encore au cœur de l'actualité de cette rentrée. Et c'est l'Espagne qui fait figure de pionnière dans sa législation. Un pays où 3 millions de femmes ont porté plainte pour violence l'an dernier. Cet été, le Conseil des ministres a approuvé un projet de loi qui sera débattu cet automne au Parlement et qui fera date. Dans le cas de viol, le silence de la victime ou son absence de réaction physique ne signifie pas son consentement, estime le texte. Les explications à Madrid de Diane Cambon.
Seul un oui est un oui, c'est ainsi qu'est surnommé le projet de loi sur les violences sexuelles qui sera présenté cet automne au Parlement espagnol. Une loi d'avant-garde défendue par le très féministe gouvernement socialiste qui donne un nouveau sens au consentement. Tout acte sexuel sans accord explicite est désormais considéré comme un viol et non plus comme une agression sexuelle, laquelle est faiblement pénalisée. Ce modèle de consentement positif est inspiré en partie par la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe, une définition réclamée depuis des années par les féministes, mais qui fait polémique. À l'origine de cette loi, il y a l'affaire de la Meute. En 2016, lors des fêtes des taureaux de la Sainte-Fermine, à Pamplune, 5 jeunes violent ensemble une jeune fille dans le hall d'un immeuble. Le tribunal les condamne pour abus sexuels car la victime n'a pas pu prouver qu'elle s'était opposée physiquement ou verbalement. La décision de la justice provoque alors un tollé et des millions de femmes durant des semaines défilent dans tout le pays pour protester contre ce jugement. Une nouvelle génération de féministes fait irruption, plus jeune et décidée à lutter contre une justice considérée comme trop patriarcale. L'Espagne fait pourtant figure de référence dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles. En 2004, le pays devient pionnier en introduisant la différence de genre comme circonstance aggravante des violences. Mais la fronde contre la Meute obligera les autorités à aller encore plus loin. Le code pénal est alors durci pour les violences sexuelles. Le harcèlement de rue va devenir un délit, tout comme le mariage forcé et la mutilation génitale.
Et sur la scène internationale, un texte fait référence dans la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la Convention d'Istanbul, signée par 34 pays du Conseil de l'Europe en 2011. Il énonce des normes minimums pour la prévention, la protection et les poursuites. Mais la Turquie de Recep Tayyip Erdogan a pris la décision inédite de sortir de cette convention le 1er juillet dernier. Les répercussions seront inévitables. À Istanbul, notre correspondante a choisi de nous parler d'un sujet encore plus tabou, celui des violences hors mariage, celles qui touchent les jeunes filles et les jeunes femmes dans les relations de flirt. Les victimes ont encore plus que d'autres du mal à se faire entendre et à voir leurs agresseurs punis. C'est le cas de l'une de ces victimes qu'a rencontrée Anne Andlauer.
Dans une même phrase, Zeynep rit et pleure, puis rit encore. Elle se décrit comme une jeune femme émotive qui aime la vie. Le 23 mars 2021, elle a failli la perdre. Son ex-petite amie, un homme de 27 ans, l'a frappée avec une batte de baseball, frappée pendant des heures, sur les jambes, la poitrine, les bras qu'elle avait repliés pour protéger sa tête. Il avait pris son téléphone et verrouillé la porte de l'appartement. Quand elle a enfin pu sortir, Zeynep a porté plainte avec son bras cassé. Ensuite, elle s'est enfuie auprès de sa famille.
Après cette soirée-là, plus rien ne m'étonne. La seule chose qui m'étonne, c'est comment j'ai fait pour rester en vie ou ne pas finir handicapée. C'est un miracle que je sois encore vivante. Dans la vie, je suis quelqu'un de très sensible. Quand je lisais ce genre d'histoire, j'étais toujours triste pour la victime. Je partageais, je voulais faire quelque chose. Mais quand ça t'arrive à toi, tu ne sais pas quoi faire après. Ma chance, c'est d'avoir été soutenue par ma famille. Je ne me suis jamais sentie seule, c'est très important. Celles qui restent seules, celles que leur famille ne soutiennent pas, elles sont abandonnées à leur sort, à leur mort. Je suis une survivante.
Ce n'était pas la première fois que cet homme était violent. 7 mois après le début de leur relation, il l'avait blessée à l'arcade sourcilière. Elle garde une cicatrice au-dessus de ses yeux en amande. Mais Zeynep a aussi subi des violences sexuelles et des violences psychologiques qu'elle ne décrivait pas forcément ces termes à l'époque.
Il était très jaloux. Il disait « Mais je suis comme ça parce que je t'aime ». Un exemple tout bête. Quand je mettais du vernis, il disait « Pourquoi tu mets du vernis ? Tu n'as qu'à en mettre à la maison, seulement pour moi. » Ou alors « Ne porte pas ci, ne porte pas ça ». Ou encore, lorsque je me maquillais et m'habillais pour sortir, il me disait « Tu es très moche ». Ce sont de petites choses, mais c'est aussi une forme de violence. Mais quand je vivais ça, je ne m'en rendais pas compte. Peut-être que j'espérais qu'il change, que je pourrais le changer.
Zeynep a subi ce qu'on appelle des violences dans les relations amoureuses ou de flirt. Les formes multiples de cette violence sont les mêmes que celles qui peuvent survenir au sein d'un couple marié. Mais Mervé Karabulut, une psychologue, explique l'importance de dédier une catégorie à part aux violences hors mariage, en particulier dans un pays comme la Turquie.
Dans les sociétés où les relations hors mariage ne sont pas considérées comme légitimes ou ne sont pas toujours vues d'un bon œil, les victimes de ces violences n'ont aucun endroit où aller, contrairement aux victimes de violences au sein de la famille. Souvent, les victimes de ces violences n'osent pas porter plainte et les auteurs se sentent plus forts parce qu'ils se disent de toute façon, ce n'est pas une relation légitime.
Il y a encore beaucoup à faire et la société turque reste loin d'une prise de conscience au sujet de ces violences. Mervé Karabulut en fait régulièrement l'expérience. À Istanbul, la psychologue travaille pour l'association de lutte contre la violence sexuelle. Cette dernière propose au lycée des ateliers sur la violence dans les relations de flirt, mais elle n'est pas toujours bien reçue.
Certains directeurs de lycée nous ont dit « Quelles idées allez-vous mettre dans la tête des jeunes ? Le flirt n'existe pas, donc il n'y a pas de violence dans les relations de flirt. » Mais à chaque fois que nous avons fait ces ateliers, nous nous sommes dit que l'on devrait les commencer au collège, voire à l'école primaire ou même à la maternelle. Plus on apprend tôt aux jeunes à respecter les autres, mieux c'est. Plus tôt ils se demandent comment respecter les autres, mieux c'est.
À défaut de prévention, Zeynep pourrait voulu que la justice punisse son agresseur. Mais l'homme qui a essayé de la tuer n'a reçu que 2 mois de prison pour insulte, 1 an pour blessure volontaire et l'acquittement pour les autres charges, alors que l'acte d'accusation réclamait 25 ans de prison. Son bon comportement à l'audience lui a permis de bénéficier de la peine minimum. À 25 ans, Zeynep essaye d'aller l'avant, mais ce n'est pas simple tous les jours. Elle n'a pas demandé à prolonger la mesure d'éloignement visant son ex-petite amie.
Parce que je sais que ça ne servirait à rien. S'il revient et me tue, on écrira dans les journaux « Elle a été tuée malgré une mesure d'éloignement. Je ne veux pas de ça. » Et de toute façon, ce n'est pas une mesure d'éloignement qui lui fera peur. Il sait où je vis et il sait qu'il n'y a pas de caméra dans ma rue. Le soir, quand je me couche, je me dis « Ah, il ne m'est rien arrivé aujourd'hui. » Je suis toujours en alerte. Quand je rentre à la maison, je prends toujours un taxi et ma maman m'attend à la sortie du taxi. Tout peut arriver. De toute façon, ceux qui ont rendu ce jugement l'ont fait en connaissance de cause.
Zeynep a fait appel du jugement, même si elle n'attend rien d'une justice qui a laissé cet homme en liberté. Elle pense surtout aux autres femmes qui croisent la route de son agresseur et ne seront peut-être pas demain des survivantes comme elle.
L'Ukraine, seul pays d'Europe en guerre dans la région séparatiste du Donbass, fêtait le 24 août dernier les 30 ans de son indépendance. Défilé militaire devant la foule amassée pour l'événement, soldats et soldates, vétérans et vétéranes, les femmes ont fait une entrée en fanfare dans l'armée depuis le début du conflit qui oppose Kiev aux séparatistes de l'est du pays soutenus par la Russie. Elles n'étaient que 1%. Au début du conflit, elles représentent aujourd'hui 25% des effectifs. Mais leur présence ne signifie pas pour autant la fin du sexisme. Le combat n'est pas terminé, comme nous l'explique à Kiev Stéphane Sion.
Au cœur de l'été, un scandale a éclaté quand le ministère de la Défense a envisagé de faire défiler un bataillon de femmes officières sur des talons hauts. La communauté manageuse du mouvement des vétéranes a repéré la photo des répétitions et sur les réseaux sociaux, Katerina et ses amis ont lancé l'attaque sur les hauts gradés.
Quand on a vu la photo, on a halluciné, on était choqués. On a écrit un post bien énervé. Ça a fait le buzz et pas mal de monde s'est mis à gueuler. Même les femmes députées au Parlement ont commencé à s'y mettre. Et tout le monde a dénoncé cette idée à la con. D'abord, faut savoir qu'on se bat pas, qu'on ne meurt pas au front en talons aiguilles. Ensuite, faire une parade militaire en talons, ça te fout les pieds en l'air. C'est pas bon pour la santé. On a réussi à faire remplacer les talons par des bottes. Mais dans leur tête, ils n'ont toujours rien compris. C'est une bataille gagnée pour nous. Mais on n'a pas encore gagné la guerre.
Le défilé se met à peine en branle que des tonnerres de hurrahs retentissent. Diakouyemo, ça veut dire « nous vous remercions » en langue ukrainienne. Et à l'applaudimètre, le bataillon des femmes se taille la part du lion. Au sein de la colonne, Katerina savoure le moment. Mais la jeune militante le sait bien, la bataille pour le statut des femmes militaires n'est pas gagnée. C'est un combat de tous les jours qui ne fait que commencer.
Les gens apprécient vraiment de nous voir, même si certains pensent que notre présence est exotique. En tout cas, on n'est pas là pour faire joli sur le gâteau, mais pour montrer que les femmes savent faire la guerre, autant que les hommes. On est tous les jours et patriotes et féministes, mais aujourd'hui, on le dit plus fort.
Rencontre dans le petit appartement qui héberge l'association, sur le boulevard Lesia Ukrainka, une femme de lettres socialiste d'il y a un siècle, la première féministe ukrainienne. Le mouvement des femmes vétéranes existe depuis 2017, mais en réalité, les activistes sont sur le front depuis le début de la guerre. En 2015, elles ont poussé le Parlement à voter une loi pour que les femmes dans l'armée ne soient plus cantonnées à la cuisine, à la lessive ou à des fonctions subalternes, comme l'explique Katerina Primak.
Après cette loi, on a compris qu'on avait encore beaucoup de travail, car l'état-major de l'armée reste imprégné d'une mentalité soviétique. Si de par la loi les femmes peuvent combattre, de facto les chefs ont tendance à les reléguer loin des zones de combat. Parfois elles sont même exclues de l'armée lors des commissions médicales.
Pourtant, le nombre de femmes dans l'armée a littéralement explosé. En 2014, elle ne représentait que 1% des effectifs. Aujourd'hui, 25% de l'armée est féminine et 15% des personnels directement engagés sur le front sont des femmes. C'était le cas de Andriana, qui, après la révolution de Maïdan, est partie volontairement sur le front.
Les femmes ukrainiennes sont un phénomène unique dans l'histoire du monde. Je ne connais pas de cas où des femmes sont parties se battre sans être mobilisées et sans être payées.
Pour Katerina, les femmes soldats sont confrontées à un plafond de verre quand il s'agit de faire carrière dans l'armée. Et au quotidien, les problèmes restent innombrables.
Il y a d'énormes problèmes d'équipement. Par exemple, on vient juste d'obtenir le droit de recevoir des sous-vêtements féminins. Vous vous rendez compte, l'armée nous donnait des slips masculins. On n'avait pas d'uniforme ou de chaussures à notre taille, aucun soutien médical, gynécologique. Ils ne comprennent pas que c'est important d'avoir une médecine adaptée.
Aujourd'hui encore, les textes régulant la place des femmes dans l'armée sont les mêmes que sous l'URSS. Pourtant, sur le front de l'égalité, Andriana constate que les choses vont dans la bonne direction.
Nos frères d'armes sont devenus féministes par la force des choses. On a partagé avec eux l'épreuve du feu et on a dû leur prouver qu'on était aussi fortes qu'eux, physiquement et moralement.
Et heureusement, les mentalités changent. Comme un symbole, c'est une femme de 54 ans, Yulia Laputina, la seconde femme nommée au grade de général dans l'histoire ukrainienne, qui est devenue en 2020 la ministre des vétérans, tous sexes confondus.
Bonjour Iban Rice.
Bonjour Frédéric.
Vous signez chez Robert Laffont « La fabrique des élites des rails », un livre d'enquête fouillé sur les trois grandes écoles de commerce françaises, ces écoles qui forment les dirigeants des grandes entreprises de demain. Et votre constat est glaçant. Il règne dans ces écoles une violence sexiste, mais aussi sociale et raciste, qui reste en grande partie impunie, notamment sur le sexisme. Votre livre explique, ou plutôt raconte, dans les détails des soirées, des week-ends d'intégration ou des journaux d'école qu'on appelle les fanzines, où le sexisme, dans ce qu'il a de plus dégradant, est valorisé.
Oui, c'est valorisé parce que c'est par ces rites d'initiation, c'est par la sexualisation permanente des étudiantes qu'on arrive à gagner une réputation. Et il n'y a que la réputation qui prévaut dans ces écoles-là. Les étudiants veulent être cool, veulent accéder aux associations qui comptent et qui pourront leur donner un emploi après leur diplôme. C'est une course à l'échalote de qui sera le plus sexiste ou qui sera le plus homophobe ou raciste. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est systémique et que ces trois écoles ne peuvent pas se permettre d'agir contre ces dérives-là, puisque agir contre ces dérives-là reviendrait à admettre qu'elles existent. Et on parle d'écoles qui valent à peu près 15 000 euros l'année pour un programme grande école. Donc le classement étant tellement l'obsession de ces directions, elles ne peuvent pas se permettre d'agir contre ces dérives. Elles commencent à le faire, mais à cause de la médiatisation et avec une certaine forme d'opportunisme.
Quand on parle de dérives et quand on parle de sexisme, on parle de dérives très lourdes.
Alors, les étudiantes arrivent un petit peu, et c'est terrible, mais c'est mes sources qui me l'expliquent comme ça, comme de la chair fraîche sur les campus. C'est-à-dire que dès qu'elles arrivent, elles vont faire l'objet de classements. Qui est la plus bonne, hein, je suis désolé pour vos auditeurs, mais c'est comme ça que les étudiants parlent des étudiantes. Qui est la plus bonne, qui a les performances sexuelles les plus productives. Elles vont devoir faire face à cette sexualisation permanente au quotidien pendant toutes leurs années campus. Ça va encore plus loin, puisque le choix de ces trois écoles n'est pas anodin. Dans ces trois écoles se passait jusqu'à l'année dernière, dans certaines, une soirée qui est vraiment l'explication mais littérale de la culture du viol. Donc c'était la soirée qui s'appelait Au bonheur des Oulettes à HEC, qui a été arrêtée il y a une année à peu près. En gros, si vous voulez, seules les étudiantes sont acceptées à la soirée jusqu'à 23h et les étudiants barmen vont leur servir de l'alcool à volonté le plus possible pour faire en sorte qu'elles soient à pompette, voire même bourrées. Et ensuite seulement, les étudiants arrivent. Donc on me décrit des scènes vraiment de viande saoule, d'agression sexuelle. C'est bien sûr de la prédation, puisque c'est un terreau qui est très fertile aux agressions sexuelles, de donner de l'alcool seulement aux filles et en très très grande quantité et gratuitement, je le note. Donc ça prépare ensuite à des choses terribles et ce qui est vraiment affreux pour ces étudiantes, c'est qu'une fois qu'elles sont agressées sexuellement ou qu'elles sont même violées, parce que je relate des faits de viol dans mon livre qui ne sont pas encore résolus d'ailleurs, le système est encore là pour étouffer leur témoignage, pour remettre en question ce qu'elles ont vécu, pour questionner même le rapport amoureux qu'elles pourraient avoir avec leur violeur. Et là, on se rend compte de quelque chose qui est accablant pour ces écoles dites d'élite, c'est que personne n'est formé à la prévention et à l'accueil de la parole des étudiantes violées. Donc, quand la psychologue conseille à une étudiante violée, c'était à l'ESSEC, de se défendre physiquement ou d'arriver avec des amis qui peuvent la défendre physiquement, je suis désolé, mais c'est pas possible en 2021.
Ou même de rencontrer son agresseur pour, soi-disant, s'expliquer de manière intelligente.
C'est quelque chose qui est théorisé, c'est la revictimisation, c'est terrible, on ne peut pas confronter une victime d'agression sexuelle ou de viol à son violeur. Elle ne pourra pas livrer un témoignage sans filtre, puisqu'elle va se retrouver dans une position qu'elle a déjà connue, elle va se crisper, elle va revivre quelque chose de terrible, puisqu'elle sera face à son violeur.
Alors, les dérives les plus violentes, on va dire, ces soirées sexistes, ces articles dans certaines fanzines ont été interdites. Récemment, vous le dites, parfois en 2017-2018, enfin il y a juste quelques années, certaines écoles ont établi aussi des chartes pour l'égalité, mais il y a un gros problème, c'est que ces chartes ne font pas partie du règlement. Donc, en fait, ce sont de beaux vœux pieux.
C'est de la poudre de perles, un pimpin, en bref, Frédéric, puisque tout l'argent qui est mis dans la communication, l'ESSEC a recharté toutes ses valeurs il n'y a pas longtemps à coup de dizaines et des centaines de milliers d'euros. La charte de l'ESSEC, ils ont communiqué énormément dessus, mais dans beaucoup de médias. Et en creusant un peu, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas contraignante puisque pas intégrée au règlement intérieur.
Il n'y a en fait aucun parcours prévu dans le cas d'agression sexuelle, aucune formation correct de personnel sur place dans ces écoles pour accompagner et gérer ces violences.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on expédie ces questions-là en début d'année en diffusant un petit film ou en faisant quelques diapositives pour se donner bonne conscience. Là, je parle des directions des trois écoles. Et derrière, c'est le vide absolu. Donc, dans mon livre, en enquêtant, en fouillant, j'ai compris qu'il fallait, en fait, quand on veut vraiment mettre fin à ces problèmes-là, il faut former tout le monde sur les campus.
Merci beaucoup, Iban Reiss, La fabrique des élites déraille, un livre paru chez Robert Laffont. À bientôt.
Merci beaucoup, Frédéric.
Merci à vous. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Olivier Roux. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées. À demain.